Oeil.
Et dans cette édition, on ira à la base aérienne où les forces armées fêtaient l'anniversaire du CASA. On parlera aussi de l'OPH qui va mieux, assure son directeur, vous l'entendrez aussi. Et pour terminer, on parlera musique, évidemment, avec Louis Bertignac qui est arrivé à Tahiti. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréo. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Lucie, on commence donc avec cet anniversaire ce matin à la base aérienne de Faa.
Et oui, l'anniversaire du CN-235, plutôt connu sous le nom de CASA. Voilà 30 ans cette année que cet appareil de transport léger est déployé en Polynésie. Ça valait bien une petite fête et dans l'armée, on fait mieux que des bougies. Une journée entière a été dédiée à cet anniversaire avec des visites d'avions, alors du CASA bien sûr, mais aussi des nouveaux Falcon Triton. Il y avait aussi des stands de restauration et de présentation sur le tarmac de Tahiti Faa, des démonstrations aussi avec des manœuvres impressionnantes au-dessus et sur la piste. Les invités nombreux ont même assisté à un vol de l'équipe Phoenix, les ambassadeurs parachutistes de l'armée de l'air qui sautent le 14 juillet et qui ont pour l'occasion volé avec les drapeaux français et polynésiens. Bref, du grand spectacle en l'honneur d'un avion couteau suisse. Le CASA fait avant tout du transport de troupes et de matériel, mais il participe aussi à la surveillance et au sauvetage maritime. Et surtout, il est régulièrement mobilisé pour des évacuations sanitaires de civils. On écoute le commandant Alex à la tête de l'escadron de transport 82 basé en Polynésie.
Alors sur les 118 îles de Polynésie française, il y a à peu près une cinquantaine d'îles avec des aéroports et plus de la moitié ne sont pas éclairées la nuit. C'est là qu'intervient le CASA. C'est-à-dire que nous sommes en complément des moyens civils. Vous avez l'entreprise Air Archipel qui effectue des évacuations sanitaires, mais ils ne sont pas capables de se poser la nuit sur des pistes non éclairées. Donc dès lors, le CASA et le dauphin de la marine nationale interviennent. Le posé se fait sur l'aéroport avec une équipe du SAMU que nous embarquons ici de Tahiti. Nous prenons en charge le patient, puis nous le ramenons à Tahiti et il est ensuite transporté en ambulance depuis le tarmac de l'aéroport où vous vous trouvez actuellement jusqu'à l'hôpital du Taonai.
Voilà, le CASA qui est particulièrement apprécié dans les Outre-mer du fait de sa capacité à atterrir et à décoller sur des petites pistes et du fait aussi de son rayon d'action, 5000 km en autonomie, ce qui lui permet des allers-retours partout dans la Polynésie et des opérations à l'extérieur. L'appareil est aussi utilisé sur des théâtres d'opérations en Afrique notamment et malgré son âge, le premier modèle a été mis en opération en 1988. Il reste parfaitement adapté aux besoins polynésiens. Des réflexions sont certes lancées pour les remplacer à long terme. Mais pour le commandant Alex, le CASA, après 30 ans, a encore de beaux jours devant lui au Fénois.
À l'échelle aéronautique, c'est pas si vieux que ça. C'est vraiment un avion moderne, malgré tout. Et il a encore des commandes par câble. Donc ça, c'est pour les pilotes, c'est agréable parce qu'effectivement, on sent l'avion. Et à la fois, c'est des systèmes qui sont assez simples, donc ils ne peuvent pas tomber en panne si facilement que ça. Il va y avoir néanmoins une rénovation à mi-vie. Donc c'est l'avionique, donc la planche de bord. Vous imaginez des instruments qui sont à aiguille pour l'instant et qui vont se transformer en écran. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va permettre à l'avion de porter un peu plus loin, d'être employé un peu plus longtemps.
Voilà, les CASA qui vont avoir droit à un lifting. À noter que la base aérienne de Faa est en grand chantier. L'idée est de reconstruire des hangars adaptés, non pas aux CASA, mais aux nouveaux Falcon 50M, les remplaçant des gardiens pour pouvoir accueillir aussi davantage d'avions à l'avenir et même pouvoir héberger temporairement des rafales lors de grandes opérations de projection.
Deux ans après son arrivée aux commandes de l'OPH, Mike Atchoy dit voir certains voyants virer au vert.
Et notamment les comptes de l'établissement public, longtemps considéré comme catastrophique. Beaucoup d'efforts ont été faits à l'OPH, la mise en place d'une comptabilité analytique, des conventions de mission passées avec le pays, la réduction des dépenses de fonctionnement avec une baisse notable de la masse salariale et une réorganisation des services. Mais le travail est loin d'être terminé. La production de logements est toujours insuffisante. Les accessions à la propriété se font encore au compte-gouttes.
On avait en moyenne sur ces dernières années donc seulement 10 familles qui étaient rendues propriétaires par an, ce qui est très peu quand on regarde donc les 1300 familles qui attendent aujourd'hui d'accéder à la propriété. Pour augmenter donc la mise en accession par an, il faut mettre une méthode. Et c'est clairement ce qu'on a essayé de mettre en place dans l'ensemble de nos activités. Plus de méthode, plus de rigueur et du suivi.
Et entre les personnes qui n'arrivent pas à payer le prix de vente et les vieilles résidences héritées de l'ancien parc géré par l'OTHS et la CETIL, parfois vétustes, non conformes et même sans permis de construire, difficile de rendre les familles propriétaires. Et puis il faut construire, mais ce n'est pas facile, toujours ce même problème de foncier.
Mais la problématique aujourd'hui, c'est bien entendu le foncier. Et quand on a du foncier, c'est souvent du foncier qui est situé sur des zones à flanc de montagne où il faut effectivement sécuriser l'étalement. début et donc c'est moins des coûts de construction plus élevés et forcément des loyers qui sont impactés par ces coûts de construction là. C'est toute la problématique, en tout cas tout l'enjeu, les défis auxquels on devra faire face, notamment le besoin en foncier.
Et si les recettes de fonctionnement ont augmenté, c'est toujours le pays qui finance quasiment à 100% les investissements OPH, avec notamment 12 milliards de francs pour la construction de logements groupés et de phares OPH. Et là aussi, Mike Hatchoy veut que ça change.
Pour régler ces situations-là, il faut déjà ramener cet équilibre budgétaire et ramener aussi de la trésorerie pour permettre à l'Office d'assumer toutes ces missions-là. Mais à terme, quand on a un bilan aussi qui est plus équilibré avec des voyants qui sont verts, ça permet aussi à l'Office, à un moment donné, de recourir à l'emprunt et de mettre en place cet effet de levier. Pour dire que si le pays met 100 francs sur la table, nous on arrive à lever, pourquoi pas, 100 francs aussi de fonds privés via l'emprunt. Ce qui permet finalement de démobiliser les fonds publics, et notamment le budget du pays, sur le logement.
Et pour 2026, l'OPH a un budget de 6 milliards de francs pour 450 phares. En 2025, le budget était de 7,5 milliards de francs pour 600 phares. Et les constructions ont bel et bien été engagées, assure le directeur.
Et justement, en parlant de logement, quels sont les endroits sûrs ?
Une question à laquelle vous pouvez désormais avoir une réponse en allant sur le nouveau site de la direction de la construction et de l'aménagement. Une plateforme spécifiquement pensée pour voir tout de suite quels sont les risques sur une zone donnée par parcelle. Le site reprend la carte du cadastre et il suffit de zoomer pour trouver des étoiles qui chacune représentent un risque, éboulement, inondation, érosion, glissement de terrain, coulée de boue. Tout est répertorié avec le lieu, la date et la description de l'événement. Des références de surcote cyclonique sont également indiquées. Grâce à ce nouveau site, la DCA espère permettre à chacun de connaître les risques auxquels son logement est exposé, entretenir la mémoire des catastrophes passées, sensibiliser la population et contribuer aussi aux bonnes pratiques pour des projets d'aménagement. Vous trouverez le lien sur notre site radio1.pf.
La gendarmerie ouvre ses portes ce samedi à Phare.
Après le succès de la première édition Portes Ouvertes l'année dernière, le public va de nouveau pouvoir visiter la brigade de FAA et avec du spectacle, démonstration, intervention, grandeur nature, brigade cynophile, police scientifique, déploiement des moyens de la gendarmerie comme les engins blindés, les drones, les motos. L'idée est de montrer la diversité des missions et des métiers, susciter des vocations, renforcer le lien de confiance avec la population, mais surtout montrer la réalité du terrain, l'adjudant Doucet au micro de Radio 1.
À 9h, vous pourrez profiter d'une démonstration dynamique de nos unités d'intervention. On a monté un scénario, nos camarades des unités d'intervention telles que le peloton de surveillance et d'intervention, voire même du GIGN qui, une fois encore, s'est montré disponible pour participer à cet événement-là. Ils vont vous faire plonger au cœur de l'action et vous montrer le savoir-faire de nos militaires dans ce domaine d'intervention. On souhaite lever le voile d'une caserne de gendarmerie, permettent à notre population de pousser les portes et de rentrer à l'intérieur pour pouvoir rencontrer, comme je l'ai dit, j'aime à le dire, ces femmes, ces hommes engagés au service de notre population.
Et ces portes ouvertes, ce sera donc samedi matin à partir de 8h et les démonstrations donc à 9h et à 10h30 à la brigade de FAA.
Et ce cadeau qui arrive un peu tard, mais qui est quand même arrivé.
Et les 6e du collège de Mahina ne s'y attendaient certainement pas. Ils avaient en décembre dernier envoyé leurs vœux au roi Charles III d'Angleterre et il a répondu. Un courrier arrivé en mars dans lequel le roi les remercie, parle de son émotion quand il a lu leurs lettres et leur transmet à son tour ses vœux pour la nouvelle année. Le collège a parlé d'une surprise de taille qui a suscité une vive émotion dans les classes. On se souvient qu'en 2023, une classe de la mission avait invité Thomas Pesquet en Polynésie et l'astronaute français avait accepté, là aussi une surprise de taille que personne n'a oubliée.
Un peu de sport maintenant avec cette deuxième étape du Championship Tour de surf qui pourrait commencer aujourd'hui.
Kaoliva, Stia Zebrowski et Vahine Fiero auront affaire à de sérieux adversaires dès le premier tour et vous le savez, s'ils perdent, c'est fini. Il n'y a plus de repêchage désormais sur la WSL. Le champion olympique Kaoliva affrontera le médaillé d'argent olympique Jack Robinson. Le scénario rejoue donc la finale olympique de 2024 en opposant les deux surfeurs. Sauf que cette fois, c'est l'Australien qui est annoncé favori et qui joue à deux missiles. Tia Zebrowski sera opposée, elle, à une habituée du tour, Sally Fitzgibbons, qui a déjà gagné cette étape par le passé. Une bataille de génération entre la plus jeune et une des plus anciennes du tour. Et ce sera peut-être plus simple pour Vahine Fiero qui sera contre Nadia Estarbe. Et dans les statistiques, c'est la Tahitienne qui l'emporte. Lancement potentiel de la compétition à 13h, heure de Tahiti.
Et puis on finit par cette arrivée lundi soir. Louis Bertignac est à Tahiti.
Oui, il est arrivé à Tahiti. Haïti lundi soir, le guitariste qui a fêté ses 70 ans et ses 50 ans de carrière dans une grande tournée se produira samedi à l'hôtel Tahiti Lagoon Resort. Plus de 40 ans après son premier passage au Fénois avec son ancien groupe Téléphone. Et cette figure du rock français dit avoir aujourd'hui beaucoup plus de plaisir qu'avant. Moins de pression, plus de passion.
Je me sens plus en maîtrise de ma voix, surtout de ma voix. La guitare, ça a toujours été. Mais dans Téléphone, j'en chantais une ou deux par concert. Et quand le Téléphone s'est arrêté, tout m'est tombé sur la gueule. Et maintenant, c'est toi le leader. Et je n'aimais pas ma voix du tout. Donc là, j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à m'amuser avec. Et c'est beaucoup plus agréable qu'avant pour moi. Avant, c'était l'angoisse.
Après ces longs mois sur les routes, le programme du concert est bien rodé. Les tubes intemporels de Téléphone, ses propres succès et des morceaux plus récents, une setlist capable de séduire toutes les générations.
Ce qui est marrant, c'est les âges. Je ne sais pas ce qu'on va avoir comme âge. Moi, dans mes concerts en France, il y a la moitié qui ont plus de 50 ans. Il y a une moitié qui est entre 20 et 50, et presque les trois quarts de ce qui reste. Et en quart, c'est des moins de 15 ans. Et en général, c'est les gosses qui mettent le plus d'ambiance.
Il sera entouré de ses trois musiciens, un groupe de bons vieux potes qui l'accompagnent en studio et en tournée et qui savent chanter. Ils font des chœurs d'enfer, assure Louis Bertignac. Et puis il aura aussi avec lui la célèbre Gibson SG Junior de 1963, une guitare qui ne le quitte jamais. Le concert organisé par Essa Productions affiche déjà complet, mais pas de panique pour ceux qui ont raté le coche. Louis Bertignac a déjà annoncé qu'il reviendrait l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, voici la météo sur Radio.